le journal de la rédaction sur France Culture avec vous, Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. 14% de l'ensemble des demandeurs d'emploi contrôlés en France ont déjà fait l'objet d'une sanction. Sanctions qui seront durcies cette année. C'est ce que révèle un décret paru au journal officiel. Et ce n'est pas ce que le gouvernement avait annoncé, vous l'entendrez.
Dans cette édition également, nous analyserons les changements du malus écologique contre les véhicules polluants. S'il est élargi, les taxes en revanche sont abaissées.
Jair Bolsonaro, président d'extrême droite, est entré en fonction hier au Brésil. Et s'il a tenté de camoufler son discours autoritaire, il s'en est tout de même pris au socialisme, aux syndicats et à la presse. Nous rejoindrons notre correspondante sur place.
Et puis nous irons également en République démocratique du Congo. Depuis le début de la semaine, Internet est coupé. À l'heure de la remontée des résultats de la présidentielle, les autorités disent vouloir éviter un soulèvement populaire.
Comment préserver le patrimoine architectural à Beyrouth au Liban face à la mondialisation? Difficile combat auquel se livrent habitants et associations. Nous les avons rencontrés, vous les entendrez en fin de journal. Et puis dans un gros quart d'heure, Frédéric Seyss continue son tour d'Europe dans son billet politique. La France et l'Angleterre ce mercredi. C'est une précision publiée dimanche au journal officiel qui fait aujourd'hui bondir certains syndicats et certaines associations. Les sanctions à l'encontre de chômeurs en cas de manquement à leurs obligations sont plus dures que ce qu'avait annoncé le gouvernement. Un décret le précise. Les demandeurs d'emploi sont inspectés depuis la présidence de François Hollande, ça nous le savons. Le nombre de contrôleurs doit passer de 600 à 1 millier, pas de surprise. Mais les sanctions, donc, depuis hier 1er janvier, les sanctions en cas de manquements ne sont pas tout à fait celles qu'avait prévues le gouvernement, Marie Viennot.
Plus de contrôle et des sanctions plus justes, c'est ce qu'avait promis la ministre du Travail au moment de présenter sa loi. 15 jours de radiation étaient donc prévus pour défaut de présentation à un entretien. Ce sera finalement un mois. Mais le plus grand changement concerne les chômeurs ou chômeuses radiés pour insuffisance de recherche d'emploi. Qui dit radiation dit plus d'allocations. Mais jusqu'à maintenant, les allocations étaient suspendues. Or, d'après le décret, elles seront supprimées. Autrement dit, ce qui n'aura pas été touché pendant la période de radiation sera définitivement perdu. Un changement colossal qui aurait mérité d'être révélé avant l'avant-veille de sa mise en œuvre, s'indigne Tennessee Garcia, secrétaire général du comité national CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires.
Les chômeurs vont découvrir que les sanctions, par exemple, sur la recherche d'emploi sont multipliées par 4 et ils vont découvrir tout de suite qu'on leur supprime leur allocation chômage dès le premier manquement. C'est de la folie, c'est une décision, par exemple, que les conseillers Pôle emploi n'ont pas du tout été formés sur cette question-là, mais pourtant on va devoir le mettre en œuvre et s'il y a contestation, elle sera auprès du conseiller Pôle emploi du contrôle de la recherche d'emploi qui vous a radié. On marche sur la tête.
Donner à Pôle emploi le pouvoir de radier les chômeurs, c'est aussi une nouveauté, mais c'était dans la loi votée en septembre. La bascule, le changement de régime qu'institutionnalise ce décret, c'est le contrôle de l'État sur les allocations chômage. Tennessee Garcia.
Jusqu'à la loi Avenir professionnel, c'était illégal de supprimer l'allocation chômage d'un demandeur d'emploi parce que l'État n'avait pas le droit de mettre la main sur cet argent-là qui relevait de la protection sociale et pas de son budget. Mais désormais, depuis que les cotisations sociales sont supprimées et qu'elles sont remplacées par la hausse de la CSG qui est un impôt, alors l'État décide d'imposer de nouvelles sanctions dans lesquelles il peut vous voler le montant de votre allocation chômage et désormais les travailleurs n'ont plus de regard dessus.
Supprimer les cotisations chômage des salariés, ce n'était pas qu'une mesure pour leur pouvoir d'achat, c'était aussi une façon de faire passer l'assurance chômage sous le giron de l'État, ce qui n'est pas une surprise. C'était dans le projet d'Emmanuel Macron avant son élection, mais à l'époque, on n'en avait pas mesuré toutes les implications.
Voilà pour la plus grande intransigeance de l'État envers les chômeurs qui seraient radiés pour insuffisance de recherche d'emploi. En cette année 2019, l'État se montrera en revanche un peu moins sévère contre certains conducteurs, certains automobilistes. Là aussi, il faut creuser, il faut regarder les réformes dans le détail. Le malus écologique est ainsi officiellement durci pour à terme retirer les véhicules les plus polluants de la circulation. Mais en réalité, la taxation sera moins importante qu'auparavant, Véronique Roberotte.
Certes, le texte inscrit dans le projet de loi de finances 2019 prévoit un abaissement du seuil d'application du malus. 120 grammes en 2018, 117 grammes de CO2 par kilomètre en 2019, plus de véhicules concernés donc, mais soumis à une grille de malus moins sévère. Alors que le gouvernement avait pourtant prévu de durcir le barème dans un premier temps, tous les montants de ce malus de base jusqu'au plus élevé sont revus à la baisse. 35 euros au lieu de 50 pour démarrer et ainsi de suite. C'est ainsi que le malus d'un 4x4 émettant 140 grammes de CO2 par kilomètre, qui était de 1050 euros en 2018, ne sera plus que de 690 euros en 2019, pas franchement vertueux. Ce malus écologique moins sévère mais plus étendu devrait rapporter un peu moins de 600 millions d'euros à l'État, de quoi financer la prime à la conversion qui a connu en 2019 des aménagements de dernière minute sous l'impulsion des gilets jaunes. Les ménages non imposables bénéficieront des aides les plus élevées. Un seul exemple, la prime à la conversion sera doublée pour un ménage non imposable qui se débarrassera d'un vieux véhicule essence ou diesel à condition d'habiter à plus de 60 km de son lieu de travail, jusqu'à 5000 euros de prime pour un modèle électrique ou hybride, même d'occasion.
Véronique Rebérotte, qui chiffrait le malus écologique à 600 millions d'euros de recettes pour l'État, c'est justement la somme qu'a provisionné le gouvernement pour financer dans le même temps la prime à la conversion cette année. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, l'affirme dans les colonnes du Parisien ce matin. Ils ont lancé leur mouvement pour défendre leur pouvoir d'achat, lié pour beaucoup à l'utilisation obligatoire de leur véhicule quotidiennement. Les gilets jaunes se mobilisent encore en ce 2 janvier. Ils sont des dizaines à bloquer depuis ce matin un dépôt pétrolier à Grand-Quevilly, près de Rouen. Nos confrères de France Bleu Normandie nous indiquent que les camions-citernes ne peuvent ni entrer ni sortir du terminal en ce moment. La commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur Alexandre Benalla ne va pas rouvrir, comme l'avaient réclamé les socialistes. Ils se sont vus opposer une fin de non-recevoir par la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet. Elle refuse de laisser l'opposition instrumentaliser une affaire qui est déjà entre les mains de la justice. Yaël Braun-Pivet l'a dite à Laurence Perron.
Les faits qui entourent ce monsieur sont instrumentalisés par les différents groupes politiques de notre assemblée. On se rappelle bien que l'été dernier, l'affaire Benalla avait fait l'objet donc de d'esbroufes de la part de l'opposition et d'une motion de censure pour renverser le gouvernement. Donc là maintenant, concernant l'utilisation et la possession par monsieur Benalla de passeports diplomatiques, la justice était saisie puisque monsieur Le Drian, ministre, avait saisi le procureur de la République de ces faits. Et donc il fallait laisser la justice travailler sereinement. Et deuxièmement, que la commission d'enquête de cet été n'avait pas pour objet monsieur Alexandre Benalla dans ses œuvres complètes, mais les événements relatifs aux manifestations du 1er mai, et qui plus est, commission d'enquête qui avait été close parce que l'opposition, dont le groupe socialiste, n'avait plus souhaité y participer. Donc là, aujourd'hui, le nécessaire est fait pour éclaircir les faits qui ont été portés à notre connaissance récemment.
Et ajoutons toujours, selon la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, que l'usage qu'Alexandre Benalla a fait de ses passeports diplomatiques ne relève pas, selon elle, des compétences de la commission.
Suite du journal 8h08 sur France Culture avec vous, Clara Lecoq-Réal, et le Brésil qui s'est endormi avec un nouveau président.
Il s'appelle Jair Bolsonaro. Il a été officiellement investi hier soir, s'affichant dans son discours contre le politiquement correct et promettant de rétablir l'ordre dans le pays. Bien moins provoquant qu'à son habitude, le président brésilien a donc repris ses thèmes de campagne pour le plus grand bonheur de ses partisans. Il lance à Nvinha une bataille contre ce qu'il appelle l'idéologie de gauche.
Selon les vœux de Jair Bolsonaro, le Brésil commence avec sa présidence à se libérer du socialisme, de l'inversion des valeurs et du politiquement correct. Les valeurs morales et chrétiennes ont été souvent citées pour se débarrasser de l'idéologie du genre. À la toute fin de son discours, le président a répété que le drapeau brésilien ne sera jamais rouge. Une allusion à nouveau à la gauche qui avait décidé de boycotter cette investiture. Ses députés et sénateurs n'étaient donc pas au Congrès mais ont réagi sur les réseaux sociaux. Guillermo Boulos, candidat à la présidence pour le parti de gauche, le PSOL, considère que le président promet de persécuter ses opposants au lieu de tenter de réconcilier un pays extrêmement divisé. Paulo Pimenta, leader du Parti des travailleurs à la Chambre des députés, a critiqué un discours vide de propositions concrètes mais très autoritaire, rien de différent avec le Bolsonaro que l'on connaît. Les syndicats ont également réagi dans une lettre ouverte au nouveau président. Ils rappellent leur rôle et exigent d'être pris en compte. Ils ont dénoncé que pendant toute la période de transition, ni le président ni ses ministres n'ont invité les syndicats, alors que les religieux ont droit à l'écoute du président. Enfin, les organisations de défense de la presse ont protesté contre le traitement réservé aux journalistes pendant cette investiture. Confinés dans une pièce pendant des heures et sans pouvoir en sortir, les journalistes ont vécu une investiture inédite, prémisse d'une relation qui s'annonce difficile difficile avec le nouveau président.
Et comme un écho surtout à la politique de son voisin américain, un Donald Trump brésilien, disent déjà certains observateurs. D'ailleurs, hier soir, le président américain a félicité Jair Bolsonaro pour, a-t-il écrit, son super discours d'investiture. L'Occident demande à Kinshasa de débloquer Internet. Depuis le début de la semaine, en effet, les accès aux réseaux sociaux et plus généralement la communication est coupée en République démocratique du Congo. Cela intervient pour le nouvel an, les vœux n'ont donc pas pu s'échanger hier. Cela intervient aussi et surtout alors que la compilation des résultats de l'élection présidentielle se poursuit à huis clos. De quoi gâcher l'espoir qu'avaient certains d'élections intenses ou à peu démocratiques, Anthony Fouchard.
Les Congolais se sont réveillés en 2019 avec un drôle de sentiment, celui d'avoir enfin, après 2 ans et 1 semaine d'attente, la chance de pouvoir changer les choses en glissant un bulletin dans l'urne. Mais l'excitation et l'impatience auront rapidement laissé place à l'inquiétude. Lundi, en fin de matinée, les réseaux sociaux sont inaccessibles. Rapidement, c'est tout Internet qui tombe, puis les SMS. Un opérateur de téléphonie confie que l'ordre est venu de tout en haut, dit-il. D'abord, on file très simplement Twitter et Facebook, puis on nous a demandé de tout couper. Le signal de Radio France Internationale lui est brouillé depuis hier à Kinshasa. Le comité laïque de coordination, une des principales organisations citoyennes du pays, appelle les Congolais à ne pas se faire voler leur vote et dénonce, je cite, « des irrégularités massives et programmées ». À côté des réactions, l'ambassadeur des États-Unis, dans ses vœux du nouvel an, a souhaité aux Congolais une transition démocratique. Kinshasa n'a d'ailleurs pas hésité à renvoyer l'ambassadeur de l'Union européenne en fin de semaine dernière. La commission électorale pourrait annoncer les premiers résultats aujourd'hui.
Anthony Fouchard à Kinshasa pour France Culture. Médusée devant les caméras, surprise et destituée en direct. La chef de l'opposition de gauche au Parlement en Israël, Tzipi Livni, quitte son poste, lâché par le leader du Parti travailliste qui était jusque-là son allié. Le centre-gauche ira donc en ordre dispersé aux législatives anticipées prévues le 9 avril prochain. L'Union sioniste était la principale force d'opposition au gouvernement de Benjamin Netanyahou. En bref, encore 37 personnes ont été tuées hier au Mali dans l'attaque d'un village Peul dans le centre du pays, attaque attribuée aux chasseurs traditionnels Dogon. Ces violences intercommunautaires ont fait 500 morts au moins en 2018 dans un pays toujours déstabilisé par les attaques djihadistes. Partons maintenant à Beyrouth, capitale libanaise, autrefois appelée le Paris du Moyen-Orient, pour sa douceur de vivre, pour son ouverture et surtout la richesse de son patrimoine architectural. Ce patrimoine est aujourd'hui menacé par la pression des projets immobiliers. Des habitants et des associations se battent pour tenter de le préserver, de préserver ce qui reste en tout cas. Pour le moment, sans grand succès, les chiffres sont édifiants, Aurélien Colli.
En 1995, une étude avait recensé 1 millier de bâtiments à préserver dans Beyrouth pour leur valeur historique et architecturale. Centre administratif de l'époque ottomane, bâtisse du mandat français, immeuble moderniste d'avant la guerre civile. 20 ans plus tard, une bonne moitié a disparu, démolie pour faire place à des constructions neuves. Pascal Inja est présidente de l'Association pour la protection du patrimoine libanais.
Les propriétaires aujourd'hui n'ont pas les moyens. Ils vendent leur maison, leur parcelle à des promoteurs. Je ne reconnais plus ma ville, les habitants ont disparu. Donc, à travers ces bâtisses, il y a une identité libanaise qui est en train de mourir.
Au nom de la reconstruction post-guerre civile, d'une certaine vision de la modernité et aussi de la loi du profit, des rues puis des quartiers entiers perdent leur cachet et leur tissu social. Avec la complicité d'une classe politique poreuse à la pression des intérêts privés, dénoncent les défenseurs de ce patrimoine, dans une certaine indifférence générale aussi, selon Pascal Inja.
La tristesse vient aussi de l'attitude des citoyens qui n'ont plus aucune attache. Ce n'est pas une question de préserver une pierre. Une ville a une âme, mais c'est très difficile aujourd'hui d'expliquer qu'au-delà de la bâtisse, de la pierre, il y a une âme.
Une loi pour protéger ce patrimoine existe, mais elle dort dans les tiroirs du Parlement. Et pendant ce temps-là, les bulldozers avancent, ralentis par des recours en justice ou la mobilisation d'associations, ralentis mais rarement stoppés.
C'était un reportage d'Aurélien Colli, notre correspondant à Beyrouth. Le soleil sera plus présent ce mercredi avec de belles éclaircies prévues du centre et du nord-ouest jusqu'aux frontières du Benelux. Un grand soleil, même encore près de la Méditerranée. Le ciel, en revanche, sera bien encombré de la Lorraine jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Comptez ce matin 2 degrés à Strasbourg et à Annecy, 5 en région parisienne, 6 degrés sur le nord, 7 degrés en Bretagne et en Gironde, 9 degrés en moyenne sur le sud de la France.
Merci Clara.